La pause entre Israël et le Hezbollah se déroule avec des incidents, mais ça tient. On dit que c'est un accord temporaire d'ici l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier prochain. Daniel Haber analyse cette situation dans les conversations qu'il a chaque semaine avec Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, comme tous les lundis, pour nos conversations. Alors, on va se poser une question ensemble dans ces conversations. Daniel, depuis quelques semaines maintenant, il y a ce fameux cessez-le-feu entre Israël et le Liban, une pause qui se déroule avec des incidents, mais pour l'instant, ça tient. On le sait, c'est un accord temporaire d'ici l'arrivée de Donald Trump qui arrivera en janvier 2025. Quelle est votre analyse de la situation actuelle?
Non, non, vous avez raison, il faut regarder au-delà de cette pause et comprendre au fond ce qui se joue en ce moment. Il y a deux transitions parallèles, mais pas tout à fait parallèles puisqu'elles se rencontrent. La première transition, c'est la transition présidentielle de Biden à Trump, on va y revenir. Mais il y a aussi une transition du conflit, parce que finalement, avec la victoire d'Israël sur le Hezbollah, qui se traduit par cette pause qui a été acceptée par l'Iran. La face des choses est en train de changer. L'adversaire aujourd'hui n'est plus tous ces proxys, ces 3 H et ces 3 M que l'Iran envoyait à l'assaut d'Israël. C'est l'Iran. Maintenant, Israël est face à l'Iran. Or, si vous voulez, pour vraiment agir, se déterminer vis-à-vis de l'Iran, Israël a besoin des États-Unis, de leur accord et de leur support. Et donc, il faut attendre que Trump arrive. Donc, on voit bien que ces deux transitions se rejoignent. Et il faut bien noter que pendant cette période d'attente, il y a des évolutions tout à fait spectaculaires qui sont en train d'arriver.
Des choses
C'est-à-dire
qui se sont
qu'au
passées.
Liban, le Hezbollah, même s'il s'accroche, et c'était prévu au terrain, il essaye de cacher des armes, cacher des hommes, mais Israël est très vigilant. Même si la France, de temps en temps, dénonce des interventions trop nombreuses d'Israël, Israël n'a pas le choix que d'intervenir très vite pour empêcher tout excès. Et au fond, Israël gère parfaitement cette situation, qui donc va tenir certainement jusqu'au mois de janvier. Et on voit que les zones d'approvisionnement, les routes d'approvisionnement du Hezbollah, auxquelles le Hezbollah se raccroche, sont en train de tomber. Si la Syrie tombe, il n'y aura plus de possibilité de faire venir des armements et des fournitures de l'Iran vers le Liban. Donc oui, la pause va tenir, c'est certain.
Oui, alors le 20 janvier 2025, hein, Donald Trump arrive au pouvoir des États-Unis. C'est une question qu'on se pose régulièrement sur Radio Judaïka et dans les médias mondiaux. Que cela va-t-il changer sur la situation géopolitique au Proche-Orient?
Écoutez, d'abord il faut réfléchir à la politique extérieure américaine. Elle va évoluer avec Trump, mais elle va pas changer fondamentalement parce que Trump 1, qu'on a connu, hein, entre 2016-2020, s'est rangé à cette politique qui consiste à considérer la Chine comme le défi principal, et donc à relativiser les théâtres européens et moyen-orientaux. Et effectivement, on voit bien que Trump a la tentation de vouloir régler rapidement et la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient pour s'attacher au défi principal chinois, mais qu'il pourra pas le faire. Tout simplement parce que la Chine, maintenant, est désormais partie prenante du théâtre européen et du théâtre moyen-oriental. La Chine est aux côtés de la Russie. Et je pense que si Poutine est aussi péremptoire et aussi têtu, c'est parce que quand même, il sait qu'il n'est pas isolé et qu'il a la Chine. Non pas en support militaire, mais en support moral et en support politique. Et c'est vrai aussi de l'Iran, qui vend tout son pétrole à la Chine et qui peut espérer que la Chine va lui apporter un certain apport. Donc, les tentatives de Trump de régler les problèmes européens et moyen-orientaux sans régler en même temps ses rapports avec la Chine, ne peuvent pas se faire. Donc, c'est en fait, on va avoir une année 2025 où il y aura trois négociations en même temps. avec l'Ukraine, enfin avec la Russie sur l'Ukraine, et ça a déjà commencé puisque Biden a rencontré Zelensky samedi dernier en France à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame. Ils sont restés 1 heure ensemble grâce à Macron, et donc ça montre que ça va aller vite dès que Trump va arriver. Avec l'Iran, il est certain que Trump observe l'affaiblissement terrible de l'Iran, qui en train de perdre tous ses proxys les uns après les autres, le Hamas, le Hezbollah, les outils dont on n'entend plus beaucoup parler, et toutes ces milices, notamment en Syrie, qui ont toujours été copieusement bombardées par Israël, vont perdre tout appui iranien. Donc la position de Trump quand il va arriver en 2025 va être difficile avec Poutine parce que c'est un redoutable négociateur, peut-être plus facile avec un Iran affaibli.
Alors, quels seront justement ces obstacles de Donald Trump? Vous parlez de Vladimir Poutine. Va-t-il se frotter à plus dur que lui?
Écoutez, avec Poutine, bien sûr que ça va être dur, mais au fond, avec les ayatollahs, ça va pas être tellement plus facile parce que on a affaire quand même à des fanatiques, donc qui sont obstinés. Alors les difficultés internes de l'Iran que je vais citer peuvent à la fois favoriser des acceptations par l'Iran, mais au contraire les rendre, les raidir. En tout cas, on sait qu'il y a la succession du guide suprême Khamenei qui est en cours, et avec beaucoup d'interrogations. On sait qu'il y a un rôle croissant de ces fameux gardiens de la révolution, les pasdaranes, qui prennent de plus en plus de place dans la gouvernance iranienne. Et puis, il y a cette révolte de la société, la révolte des jeunes, la révolte des femmes. Donc, les difficultés intérieures de l'Iran, elles existent. Et les symboles de ces difficultés extérieures, c'est la mort inexpliquée de Raïsi, le président. C'est la mort de Haniyeh en plein Téhéran. Quand même, les gens se posent des questions, et la mort de Nasrallah en plein Beyrouth, le principal ami et allié de l'Iran. Donc, on voit bien que ces symboles de faiblesse, elles sont de nature soit à raidir, soit à faciliter un accord. Une autre difficulté pour Trump, c'est que il va certainement donner la priorité à l'Ukraine, parce qu'il l'a promis, parce qu'il l'a annoncé. Et là, il va tomber sur l'obstination de Poutine. Mais les deux négociations, il faut bien voir, elles sont liées. Elles sont liées par le fait que Iran et Russie s'échangent des armes, donc et que chacun des deux, Iran et Russie, ont comme support la Chine. Donc, pour surmonter ces difficultés, Trump n'aura pas d'autre choix que de trouver un compromis avec la Chine. Or, il est il va certainement lancer tout de suite une guerre commerciale contre tout le monde, mais surtout avec la Chine, qui est son principal fournisseur. Donc ça va rendre les compromis difficiles. Les Américains gèrent une guerre très très violente sur la technologie avec la Chine, en les empêchant d'accéder aux technologies. Donc comment combiner une guerre économique très forte avec la Chine avec des nécessités de faire des compromis géopolitiques? Bon, c'est possible, mais ça sera difficile. Donc on aura bien d'autres bien d'occasions de discuter de toutes ces négociations, dont on espère qu'elles ne vont pas durer trop longtemps, parce que Israël a besoin de paix. Ça respire beaucoup en Israël, hein. On ne se cache plus dans les abris parce qu'il y a moins de sirènes, il y en a presque plus. Donc il faut espérer que 2025 va consolider ces améliorations très nettes de la situation pour Israël.
Pour terminer, Daniel Haber, en une petite minute, quelles conséquences aura l'arrivée de Donald Trump sur le front à Gaza?
Écoutez, aucune. En fait, on voit bien que Trump, qui fait une transition extrêmement amicale avec Biden, se réjouit pour Biden de la pause avec le Hezbollah, qui est considéré par Biden comme une grande victoire diplomatique, et il propose à Biden d'en engranger une deuxième. Et il dit à Biden, en gros, bah, profitez de cet élan diplomatique pour résoudre le problème des otages à Gaza. Moi, je suis pas contre. contre, que ce soit vous qui en tiriez les bénéfices, parce que moi, quand j'arrive, je veux que tout ça soit derrière moi. Au fond, le Hezbollah et le Hamas ne m'intéressent pas, parce que ce sont des milices. Moi, je ne négocie pas avec des milices, je négocie qu'avec des États. Et le seul État avec qui je veux négocier, c'est l'Iran, au Moyen-Orient. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut répondre à votre question.
Ok. Merci beaucoup Daniel Hébert d'avoir été avec nous ce matin dans nos conversations et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.